Nord-Est et qu'on aille en Belgique pour écouter ce que Viviane Teitelbaum a à nous dire sur ce qui se passe là-bas, ce dont elle a été témoin. Donc, je vais dire quelques mots pour vous présenter. Vous êtes licenciée en journalisme et communication sociale avec un master de relations internationales. Vous êtes depuis 2004 membre du Parlement de la région de Bruxelles-Capitale où vous présidez la commission environnement et vous êtes vice-présidente de la commission égalité femmes-hommes. De plus, au plan municipal, vous êtes échevine, ce qui veut dire adjointe au maire, des finances et de la propreté à Ixelles depuis 2012 et du commerce et du développement économique depuis 2016. Vous êtes très investie dans l'action féministe et vous avez présidé le lobby européen des femmes de 2012 à 2016 et vous présidez encore le Conseil des femmes francophones de Belgique depuis 2010. Vous êtes l'auteur d'une dizaine d'ouvrages et avez collaboré à plusieurs publications collectives. Par vos actions parlementaires et féministes, vous vous êtes engagée dans la défense des valeurs démocratiques, la laïcité, l'égalité femmes-hommes, la lutte contre l'antisémitisme, contre l'homophobie, contre le racisme. Et vous avez été présente sur les grands chantiers de l'action féministe, les violences contre les femmes, l'abolition de la prostitution, le droit à l'IVG, la lutte contre le sexisme, la parité dans la représentation. Je crois qu'on est très nombreuses ici à avoir mené les mêmes combats. Vous avez implémenté le premier budget municipal sensible au genre en Belgique et vous allez nous en dire plus.
Voilà. Alors, bonjour à toutes et à tous et merci de m'avoir invitée ici, aujourd'hui. Voilà. Je ne vais pas essayer de vous expliquer la Belgique parce que c'est compliqué chez nous. Voilà, on va se souvenir. Avant, on parlait des frites et du chocolat. Maintenant, il y a Molenbeek. Vous dites Molenbeek. Voilà. Toi, tu dis Molenbeek, oui. Mais lui, il a été se promener à Molenbeek à plusieurs reprises, donc presque un vrai Belge. Voilà, je vais vous dire quelques mots sur ce qui se passe chez nous aujourd'hui, parce que c'est vrai que c'est difficile. Alors, moi, je suis effectivement une militante. Aujourd'hui, je suis aussi une femme politique. Je suis engagée. Je suis féministe, résolument, mais je suis aussi juive, et donc je cumule quelques tares. Quand on veut parler librement, être une voix libre, et donc c'est parfois très difficile de dire ce que je pense, mais j'essaye de rester cette voix libre que j'ai toujours été. Alors, en Belgique, outre le fait qu'on a plusieurs niveaux de pouvoir et plusieurs parlements, plusieurs régions, plusieurs communautés, on n'a pas de laïcité inscrite dans la Constitution. Nous sommes plutôt un État neutre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, la neutralité? Ça dépend aussi, il y a différentes interprétations. Et donc, ce n'est pas facile d'avoir des prises de position. Comme vous savez qu'on est aussi le pays du consensus, où tout est toujours discuté jusqu'à ce que la nuit soit passée, parfois plusieurs nuits, parfois plusieurs semaines, pour arriver à ce que tout le monde soit d'accord sur quelque chose, on finit par avoir un pays éclaté qui offre un ventre mou par rapport à tous les extrémismes et on finit par ne jamais légiférer pour mettre fin à des situations auxquelles il serait pourtant urgent qui serait urgent d'arrêter. Et donc on se retrouve avec les cultes reconnus, hein, on en avait... La séparation Église-État date de la création de la Belgique en 1830, mais il y avait quatre cultes reconnus, le culte catholique, anglican, israélite et protestant. Et depuis 1974, il y a le culte musulman. Depuis 1985, je pense, il y a le culte orthodoxe. Et depuis 1993, il y a la laïcité qui est comme un culte reconnu. Et donc, financé, voilà, c'est la Belgique. Pays du surréalisme, mais donc la laïcité est ce qui est pas plus mal parce que on a une laïcité militante, active, financée comme les autres cultes, mais du coup le mot laïcité prend évidemment une toute autre connotation et même ceux qui sont laïcs ont plus de difficultés à lutter pour l'inscription de la laïcité dans la Constitution. Et parle plutôt comme ma formation politique. Donc moi, je suis libérale dans un parti centre-centre-droite. Je suis libérale progressiste. Mon parti a plutôt opté pour neutralité et impartialité liées ensemble. Donc, les pouvoirs publics qui agissent de manière neutre et impartiale, parce que laïcité, effectivement, est un peu connotée. Alors, nous avons aussi un pacte scolaire qui garantit d'une part l'école publique neutre, mais d'autre part l'enseignement libre subventionné. Donc, on a tout, mais on n'a vraiment rien, parce que dans l'enseignement libre qui est supposé être, dans l'enseignement pardon, public qui est supposé être neutre, nous n'avons jamais légiféré pour interdire le port de signes convictionnels. Moi, j'ai signé à plusieurs reprises des textes là-dessus, mais ils n'ont jamais été votés, ils ont toujours été rejetés par la gauche, progressiste, mais pas du tout laïque, parce qu'aujourd'hui, très clientéliste électorale, comme disait Françoise Laborde là tout à l'heure. Et donc, on a remis les clés et le pouvoir de décision au chef d'établissement, ce qui est évidemment très lâche politiquement, parce que ça a donné d'abord des écoles qui n'osaient pas interdire, puis certaines écoles qui ont interdites. Et dans certains quartiers, comme à Molenbeek, une fois que certaines écoles interdisaient, que d'autres en gardaient, bien vous aviez des écoles ghetto où les petites filles étaient voilées, et puis les autres écoles où c'était interdit. Vous avez aussi eu des écoles où il y a eu des tentatives de laisser le port du foulard, mais où très vite après, les élèves ne pouvaient plus, les fillettes ne pouvaient plus partir en voyage scolaire, ne pouvaient plus participer au cours de gymnastique, ne pouvaient plus aller au cours de biologie, où les réunions de parents, les papas ne voulaient plus être assis avec les mamans et les professeurs femmes ne pouvaient plus parler aux pères. Enfin, voilà. Donc ces écoles qui ont essayé ce qu'on appelle de manière très bateau en Belgique, mais très souvent le vivre ensemble, n'a pas fonctionné, et donc la plupart des écoles, sauf dans certaines, dont à Molenbeek, ont interdit le port du foulard. Par contre, les enseignantes ne sont pas supposées porter le foulard, ou les accompagnatrices quand elles accompagnent des élèves qui sortent. Mais évidemment, les accompagnatrices étant des mamans, et que les mamans ont un foulard, et que c'est difficile quand même de leur demander d'enlever le foulard quand elles accompagnent leurs élèves, parce qu'elles font ça bénévolement, et que finalement, voilà... Que les profs de religion, ben, elles veulent porter le foulard pendant le cours de religion, mais qu'après, finalement, elles le gardent parce que, voilà, on ne va pas leur demander de l'enlever non plus. Et donc, tout ça devient très compliqué et on finit par avoir des lois qui ne sont pas respectées, qui, finalement, n'ont pas vraiment été votées, mais qu'on a quand même imposées sur base d'une notion qui est cette neutralité, que le Centre pour l'égalité des chances a réussi à décliner en deux versions, l'égalité, la neutralité inclusive et la neutralité exclusive, c'est-à-dire que est-ce qu'on interdit aux personnes du service public dans les municipalités qui sont en contact avec le public de ne pas porter de signes distinctifs ? Ça, c'est la neutralité exclusive. Mais si on autorise celles qui sont dans les bureaux parce qu'elles ne sont pas en contact avec le public de les porter, une fois qu'il y a quelqu'un qui est malade, qu'elles doivent le remplacer, est-ce qu'on peut leur demander de l'enlever quand elles sont en contact avec le public ? Bien évidemment que non, parce que ça, ce serait très discriminatoire. Et donc, vous avez bien évidemment toute une série de communes qui sont listées comme Molenbeek, Forêt, Anderlecht, etc. Vous avez des personnes qui travaillent dans les municipalités qui sont voilées, des écoles où les professeurs sont voilés, des écoles où les accompagnatrices sont voilées. Voilà. Donc, on a une espèce de grand foutoir, je ne sais pas si on sait dire ça joliment, mais qui est la résultante de beaucoup de manque de courage politique, finalement, chez nous. Alors, comme féministe, j'ai été en contact avec cette dure réalité du féminisme qui, contrairement à tous les autres racismes, n'est pas quelque chose qui est ancré, coulé dans le bronze, j'ai envie de dire. On peut toujours reculer, hein. Le féminisme peut toujours reculer. Ce ne sont jamais des droits acquis. Ce n'est jamais quelque chose qui est là pour durer, parce que finalement, ben voilà, elle a le droit d'exercer son culte, donc finalement, est-ce qu'on a vraiment le droit de lui interdire d'eux, etc. Et donc, dans une ville, moi j'ai été à l'ULB, l'Université libre de Bruxelles, qui est une université laïque, basée sur les valeurs du libre examen. Aujourd'hui, vous avez énormément d'étudiantes voilées. Quand moi j'étais là, on bouffait du curé. On ne bouffait pas du rabbin parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. Il n'y en avait même pas du tout, en fait. On était très peu nombreux. Sinon, on l'aurait bouffé du rabbin aussi. Je pense que ça ne posait pas de problème. Je le fais régulièrement. Je n'ai pas de problème avec ça. Kasher, toujours, ouais. Mais on ne peut pas s'attaquer, comme disait M. Billard au début, à l'islam, parce que ça, c'est dangereux, ça ne se fait pas, il faut comprendre, il faut être ouvert, il faut être... voilà. Et donc, on se retrouve dans toute une série de situations, et en partie les femmes. Chez nous, donc, le Conseil des femmes a, par exemple, pris position contre le port du foulard à l'école. Ça a créé beaucoup de problèmes. Quand on a parlé des assises de l'interculturalité et que j'ai invité Jemila à venir parler au Conseil des femmes à Bruxelles, je peux vous dire que ça a été très houleux. On avait l'association coupole musulmane, l'équivalent de l'UIF, voilà, en Belgique, qui avait une vice-présidente convertie, voilée, très voilée, et qui a voulu faire de l'entrisme, mais voilà, on a résisté. Et en fait, moi, j'ai l'impression, depuis, de faire de la résistance en permanence, en particulier, sincèrement, sur les droits des femmes. Alors, ceux qui assignent les femmes à rôle déterminé, à résidence dans des rôles, m'assignent comme juive à résidence identitaire. Et donc, c'est vrai que j'ai très souvent du mal à m'exprimer. Et au Parlement bruxellois, j'ai à plusieurs reprises vraiment eu l'impression de ne plus pouvoir m'exprimer sur toute une série de sujets, y compris d'ailleurs le Moyen-Orient, parce que si vous ne dites pas que vous détestez Israël, qui est déjà un gros mot en soi, mais soit, si vous ne dites pas ça avant de commencer une intervention, eh bien, vous êtes tout de suite hué. Moi, j'étais hué de gauche à droite dans l'hémicycle, extrême gauche, extrême droite, pareil. Et donc, je me suis heurtée à être mise à résidence dans beaucoup de sujets, y compris sur le féminisme. Parce qu'à Bruxelles, il y a toute une série d'associations maintenant, dont le nom va de tête à bien d'autres, avec des féministes qui étaient vraiment ces premières féministes dont j'ai beaucoup appris il y a très longtemps, qui sont des féministes qui défendent le port du foulard. Et qui défendent en fait, qui se disent féministes musulmanes. Ça devient quelque chose de très difficile de s'exprimer. Et je vous assure que ici, voilà, c'est facile, c'est confortable. Je sais que voilà, on partage les valeurs, beaucoup de valeurs en tout cas. Mais dans beaucoup d'hémicycles et beaucoup de lieux où je suis amenée à prendre la parole. Alors, je n'ai pas encore entendu les balles siffler, mais j'ai été à plusieurs reprises menacée, insultée, hurlée dessus, huée. Et sincèrement, à plusieurs reprises, en entrant dans l'hémicycle, j'ai vraiment cru qu'on me déposait une étoile jaune sur la poitrine et que je ne pouvais plus m'exprimer sur toute une série de sujets. Moi, j'ai rencontré Mohamed et Jemila quand j'ai écrit un livre qui s'appelait « Quand l'Europe se voile ». Et j'ai été interviewée à la télévision, on dit télévision en Belgique. Et la première question que la journaliste m'a posée, c'est « Vous ne trouvez pas ça bizarre qu'une femme juive écrive sur le foulard ?» Et j'ai dit « Est-ce que vous avez une liste de sujets sur lesquels je ne peux pas m'exprimer ?» Parce que alors, donnez-les tout de suite et voilà, comme ça, c'est emballé. Et donc voilà, ce que je veux vous dire, c'est qu'en Belgique aussi, c'est très difficile. Donc, on a en plus très peu d'intellectuels. On a des intellectuels, mais on en a très peu qui osent s'exprimer comme Mohamed ou comme Gérard Viard ce matin, comme Jemila. On en a très peu aussi sur l'éventail politique. On n'a pas des intellectuels comme Alexandre Adler. On n'a pas des intellectuels. On en a. Enfin bon, je ne sais pas, j'ai peut-être choqué. Voilà, mais ce que je voulais dire. Moi, je l'aime beaucoup, donc voilà. Ce que je voulais dire, c'est que vers centre-droit, droit, nous n'avons personne qui ose s'exprimer en Belgique. Et c'est très difficile. Quand on est à gauche, on ose parler. En général, on n'ose pas parler. Vous savez qu'après Charlie, après les massacres de Charlie Hebdo et de l'hypercachère, nous avons aussi une marche en Belgique. Il y en a eu dans beaucoup de villes qui étaient solidaires de ce qui s'est passé ici. Nous n'avons pas marché contre l'islamisme. Nous n'avons pas marché contre le terrorisme. Nous n'avons pas marché contre ce qui s'est passé ici. Nous avons marché pour le vivre ensemble. Ah ! Et ça, c'était la gauche, les Verts, c'était tous ces gens-là qui se sont mis ensemble, tous nos intellectuels voilà, qui sont dans le politiquement correct, qui se sont mis ensemble pour organiser cette marche. Et je vais terminer, je crois que je dois être aussi au bout de mes... Juste en vous disant que nous avons en plus la chance, dans le Parlement où je siège, d'avoir la première femme voilée, parlementaire en Europe, d'origine turque. enfin, elle est double nationalité, elle est belge et turque, puisque on garde sa nationalité turque, proche d'Erdogan. Elle n'est pas seulement voilée, elle est habillée jusque-là avec plusieurs jupes et plusieurs blouses et le filet en dessous. Oui, elle est frère musulman. Nous avons pas mal d'officines frères musulmans à Bruxelles, certaines qui sont plus sournoises, certaines qui sont plus ouvertes. Mais donc voilà, c'est quelque chose aussi de très difficile à vivre parce que nous n'avons pas été capables de mettre cette limite-là non plus. Et donc, que ce soit dans les écoles, que ce soit dans les institutions publiques, que ce soit au Parlement bruxellois, que ce soit dans les hôpitaux, ça, j'en ai même pas parlé, mais voilà, dans les universités, au nom de la liberté d'expression, on peut être antisémite, on peut être homophobe, on peut battre sa femme, on peut l'emballer, la voiler, mais on ne peut pas dire qu'on est contre tout ça. Et ça, voilà, ben, ça mène à Molenbeek, ça mène à Forêt, ça mène à tout ce qui s'est passé et qui vient de la Belgique, j'en suis persuadée.
Merci Viviane Teitelbaum de ce témoignage qui montre bien que nous rencontrons les mêmes obstacles, en tout cas dans nos deux pays.